France Musique.
We'd like to take you back to Woodstock. This song's called On the Road Again.
Faites l'amour, pas la guerre. Une certaine idée de la contre-culture. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent, écrit Jack Kerouac en 1957 dans On the Road. Ouvrage fondateur de la Beat Generation et de ses beatniks qui donne naissance au mouvement hippie quelques années plus tard. Les premiers hippies américains revendiquent la non-violence, la liberté de se droguer et de vivre librement leur sexualité. Mais ils sont avant tout des militants radicaux, pacifiques, politiquement très engagés, qui brûlent en public leurs papiers militaires pour éviter d'être envoyés au Vietnam et appellent à la désobéissance civile.
Good morning, Vietnam!
Nés lors du baby boom d'après-guerre, les hippies s'opposent à certaines normes et valeurs de la société occidentale. Ils contestent et refusent l'ordre établi, la société de consommation, le système capitaliste et le conformisme. Mais avant tout, l'intensification de la présence des troupes américaines au Vietnam au milieu des années 60 fait l'objet d'une colère grandissante. Les hippies mènent les premières manifestations pacifistes qui éclatent dès 1965. Cette révolte contre la guerre du Vietnam est la seule qui aboutit à une victoire du vivant des hippies. Elle les réunit pour la paix et les manifestations qu'ils organisent attirent le regard de la presse et galvanisent le mouvement. Dès lors, chaque jour, d'autres opposants à la guerre du Vietnam les rejoignent. Les hippies sont les leaders de la révolte contre la guerre du Vietnam et leur gouvernement. Ils s'approprient le slogan « Peace and Love », « Faites l'amour, pas la guerre ». Œuvre du graphiste britannique Gerald Holtham, réalisée pour la campagne de désarmement nucléaire, ce logo est utilisé pour la première fois le 4 avril 1958 à Londres. Brandissant le rêve d'un monde meilleur, les hippies prônent un nouvel art de vivre basé sur les philosophies orientales et la liberté sous toutes ses formes. Les cheveux longs, les vêtements indiens, la nudité des corps qui leur permet de montrer et représenter toute leur culture en opposition à l'apparence modèle et aux usages de leur époque. Mais aussi la liberté de l'amour, l'usage de cannabis et d'hallucinogènes, et surtout le refus de toute forme d'aliénation au code de la société américaine bien-pensante. Ils forment ainsi des communautés, urbaines ou rurales, et vivent en marge de la société. Les hippies revendiquent leur culture, mais aussi leur identité. Ainsi, de nouvelles formes d'art comme le pop art ou l'art psychédélique lancé par les hippies californiens. Cette nouvelle forme d'expression recrée les perceptions que procurent les drogues hallucinogènes comme le LSD. Dans l'art psychédélique, il n'y a donc plus aucune règle, sinon celle de créer les ambiances les plus étranges possibles. Le but étant de reproduire une impression de trip ou voyage mental dû aux drogues. Dans le domaine graphique, les artistes s'expriment par les pochettes de disques, les musiciens hippies, les affiches de concerts, les bandes dessinées ou peintures. Les artistes, tels Rick Griffin ou encore Stanley Moose, utilisent de nombreuses couleurs pour représenter les hallucinations. Quant au cinéma, que ce soit dans les musiques ou dans les scénarios de films, le psychédélisme se manifeste au travers des personnages victimes d'hallucinations. Enfin, Aldous Huxley offre à la littérature psychédélique les portes de la perception.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
Du mouvement hippie naît aussi un nouveau courant musical pop-rock qui s'affranchit des codes de l'époque et ses textes engagés, ses premières guitares électriques saturées, ses légendaires solos d'instruments et ses morceaux exagérément longs. De grands rassemblements musicaux, gratuits, sont organisés, car la musique est le plus puissant vecteur de la contre-culture. Dès le 16 juin 1967, le fameux « Été de l'amour » accueille plus de 100 000 jeunes qui déferlent à San Francisco pour le premier festival de Monterey. Au programme, goûter un nouveau mode de vie, aimer son prochain, tout en franchissant les pieds dans l'herbe, les portes de la perception. Le mouvement hippie est en pleine jouissance. Tel un aimant, San Francisco, plus exactement Haight-Ashbury, devient le bastion des hippies aux cheveux longs, des jeunes contestataires politisés sur les campus universitaires, rejetant le mode de vie des parents, en vivant en communauté. Le 21 juin, sur fond de If You Are Going to San Francisco, signé Scott McKenzie, et sous les étendards de l'amour et de la paix, une foule célèbre l'avènement d'une aube nouvelle. Les love-in et les sit-in pacifiques s'enchaînent, aussi vite que se consomment les joints de marijuana et se dissolvent les buvards de LSD. Ce qui est alors, et depuis 1958, le Monterey Jazz Festival va se muer pendant 3 jours d'affilée, du 16 au 18 juin 1967, en un rassemblement pop-rock que toutes les personnalités psychédéliques du moment inscrivent à leur agenda. Un plateau remarquable en dépit des défections. Car à cette époque, les Beatles ont déjà cessé leur tournée. Les Rolling Stones sont en plein démêlé judiciaire et Bob Dylan est immobilisé suite à un accident de moto. Même si ces têtes d'affiche font défaut, le programme demeure plutôt attirant. Pour les contestataires de San Francisco, Jimi Hendrix, les Who et les Animals, mais aussi ceux de Hollywood, The Dead, Airplane, The Mamas and the Papas, venus de New York, Simon and Garfunkel, Johnny Rivers. Enfin, Otis Redding pour la soul et The Electric Flag de la branche blues rock de Chicago. Pour la musique indienne, l'incontournable Ravi Shankar. Sur ce qui devient l'hymne du Flower Power, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, le Summer of Love se diffuse dans toute l'Europe et notamment à Londres, mais prend fin en octobre 1967. 2 ans plus tard, le mouvement hippie meurt en apothéose à Woodstock devant les riffs de Jimi Hendrix. Au mois d'août 1969, un champ de luzerne situé à Bethel, dans l'État de New York, est réquisitionné et aménagé pour accueillir le Woodstock Music and Art Fair. Les organisateurs du festival s'organisent pour accueillir 50 000 visiteurs durant 3 jours, du 15 au 17 août. 3 jours de paix et de musique, des centaines d'hectares à parcourir. Promène-toi pendant 3 jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge. Fais voler un cerf-volant, fais-toi bronzer. Cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur. Cette publicité alléchante séduit. Beaucoup, beaucoup trop. Les organisateurs sont vite dépassés par l'ampleur du rassemblement. Environ 500 000 personnes déferlent des 4 coins des États-Unis. Les gigantesques embouteillages qui en découlent envahissent toutes les routes de campagne avoisinantes et bloquent tous les accès. Puis la pluie s'en mêle sans discontinuité et transforme le site en champ de boue. À la fin de la première journée, les barrières délimitant le site sont levées et rendent l'accès gratuit. Le festival est prolongé d'une journée. Côté musique, 32 artistes du pop-rock se succèdent sur la scène. C'est Sri Swami Satchitananda, maître yogi venu d'Inde, qui donne le ton du festival en l'ouvrant par un appel à la compassion. Je suis ravie de voir tous les jeunes d'Amérique rassemblés ici au nom de cet art qu'est la musique, déclare cet homme mince et barbu, assis en tailleur, entraînant la foule dans des vibrations de son homme. D'autres chants plus musclés suivent ensuite. Joe McDonald, du groupe de rock psychédélique Country Joe and the Fish, fait chanter à la foule un retentissant fuck avant d'entonner le chant anti-guerre « I feel like I am fixing to die rag ». Janis Joplin, qu'on surnomme la perle, qu'il faut soutenir pour monter sur scène, offre une superbe version de « Ball and Chain ». La voix rauque, écorchée, son interprétation ressemble à une lutte avec elle-même, mais son final a cappella reste inoubliable. John Baez, figure du folk new-yorkais, enceinte de 6 mois, est la plus grande égérie du protest song. Elle est là en missionnaire, mais aussi Joe Cocker, Crosby Stills, Nash & Young, tous défilent sur la scène de Woodstock. En véritable tête d'affiche, titulaire d'un bon nombre de tubes et déjà intronisé comme un roi de la 6 corde électrique, Jimi Hendrix est programmé pour clôturer le festival. Ce dernier a pris du retard, l'icône de la guitare passe donc le lundi, au petit matin plutôt que le dimanche soir. Seules 30 000 personnes sur les 450 000 sont encore présentes au Woodstock Music and Art Fair. La performance d'Hendrix, qui s'amuse une fois de plus à gratter les cordes avec ses dents, leur donne raison. Déjà impressionnant, c'est la deuxième partie de son concert qui le fait entrer encore un peu plus dans la légende. Avec sa fameuse guitare Stratocaster et une bonne dose de LSD, il entame en virtuose inimitable une version improvisée et hallucinée du Star Spangled Banner, l'hymne national américain, imitant le bruit des bombes des avions B-52 qui sévissent au Vietnam. Un sacrilège au son rugueux, âpre et métallique. Il mourra exactement un an et un mois après ce concert mythique. Les années Peace and Love sont bel et bien terminées.
À réécouter sur francemusique.fr.